bonsoir. Merci d'être aussi nombreux, alors qu'il fait beau, vous pourriez profiter du beau temps. La photographie a beaucoup d'atouts. C'est une pratique démocratique qui est accessible à tous, qui raconte des histoires, qui suscite des récits. C'est sans doute pour cette raison qu'elle est de plus en plus utilisée dans le cadre d'ateliers à vocation sociale, psychologique, qu'il s'agisse de recréer du lien ou de reconfigurer des identités parfois mises à mal. Pour construire cette soirée, je me suis posé finalement des questions très simples. La photo peut-elle aider à mieux vivre, à mieux comprendre le monde, à mieux se comprendre soi-même? Et pour répondre à ces questions, j'ai demandé à deux personnes de venir ce soir. Émilie Dangin est photographe, d'abord, mais elle a également une formation de philosophie et de psychologie, et elle est aussi initiée aux techniques d'hypnose. Elle vit à Bruxelles, elle est venue de Bruxelles pour nous, et elle conduit là-bas des thérapies individuelles et des ateliers de groupe qui sont justement fondés sur le recours à la photographie. Et Claudie Souban est le grand photographe que nous connaissons tous. Il intervient depuis 20 ans dans les prisons. Claudie se considère nullement comme un thérapeute. Je crois qu'il va avoir à cœur de nous dire pourquoi. Mais j'espère qu'il ne va pas faire toute la conversation sur ça. Mais il a tout de même accepté de venir nous parler de son expérience de photographe et d'animateur d'ateliers auprès d'adolescents, notamment. Et donc, son témoignage, vous verrez, est précieux. Donc, Émilie a choisi de faire un petit exposé. Donc, je passe la parole à Émilie et puis Claudie prendra le relais. Et à ce moment-là, on pourra ensuite, si vous voulez, dialoguer ensemble. Émilie, c'est à vous.
Tu peux m'indiquer quand on est 10 minutes à peu près?
Oui. Okay. Alors, il est 7h presque moins tard.
Bonsoir. Premier rectificatif, je ne suis pas psychologue. Ça, je ne peux pas laisser dire.
Ah, pardon.
Je suis photographe. Effectivement, ma recherche photographique m'a amenée à une recherche clinique, puisqu'en fait, ce que je photographie, c'est l'imaginaire, et c'est-à-dire par quel processus imaginaire on se relie à la réalité. Donc, quand Natacha Wolinski m'a proposé de venir parler de la photographie et de la photographie thérapeutique, d'abord, je voulais la remercier. On a discuté, et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de peut-être donner des éléments d'explication. Parce qu'on sait que les pratiques artistiques ont des effets thérapeutiques, ça se sait de plus en plus, les écoles d'art-thérapie, les pratiques se multiplient. Et le message que j'aimerais passer en ce qui concerne la photographie ce soir, c'est que ce n'est pas l'effet du hasard, en fait, c'est que ça peut s'expliquer techniquement et d'un point de vue psychologique, en tout cas clinique. Et c'est un peu ça que je voudrais vous expliquer. Comment ça se passe, et en particulier en photographie. Donc vraiment, comment est-ce que la photographie spécifiquement peut apaiser les personnes? Pourquoi? Pourquoi on y arrive avec ce médium-là? Voilà, parce que c'est le mien, et donc si c'était le dessin, ce serait autrement. Donc, la photographie, elle a cette chose extraordinaire, c'est que quand on est face à une photographie, on est exactement mobilisé de la même manière, mais c'est absolument identique, que quand on est face au réel. Il n'y a pas de différence, en fait. On y est mobilisé de la même manière. C'est-à-dire que le réel, il est à la fois très objectif, très réel, mais il est aussi très imaginaire. Ce que je veux dire par là, c'est que le réel n'est pas donné, il nous advient. Et c'est pareil par rapport à une photographie. Quand on regarde une photographie, c'est hyper objectif. Ça nous semble... Il y a quelque chose de très rationnel qui se met en place immédiatement, où on se dit... que si c'est dans une photo, c'est que c'est vrai, et c'est quelque chose qu'on ne remet pas en cause, naturellement, on se dit que c'est vrai. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a que c'est un canal visuel et affectif, et donc, immédiatement, en fait, il y a l'autre cerveau limbique qui est immédiatement mobilisé. C'est immédiat puisque, en fait, on fonctionne dans la vie en stockant plein d'informations qui sont d'ordre affectif et visuel de manière silencieuse. C'est comme ça que ça se passe. Et de manière assez merveilleuse, et surtout aussi d'un point de vue thérapeutique, quand on pose le regard sur une photo, eh bien, il y a ce dialogue silencieux qui se remet aussi immédiatement en route quand il regarde la photo, puisque on est en canal direct. Et c'est là où la photographie est très spécifique dans son fonctionnement imaginaire. Et elle est très naturelle pour nous. Et donc, elle peut être très utile d'un point de vue thérapeutique. Alors, par thérapeutique, je veux dire d'abord au sens large, puisqu'il ne s'agit pas immédiatement d'emmener les personnes dans un cabinet de psychothérapie, puisque, comme d'ailleurs tu pourras en parler, par thérapeutique, c'est vraiment au sens large. Ça veut dire toute pratique photographique, ou toute même initiative photographique qui, à un moment donné, dans une vie, aussi bien à titre individuel qu'une communauté ou un groupe, va générer un mieux-être, quel qu'il soit. Et bien sûr, après, plus spécifiquement, ça peut être utilisé, et c'est ce qu'on appelle la photothérapie, ça peut être utilisé dans une pratique de psychothérapie, où là, ce sont les professionnels de la santé mentale qui vont utiliser l'outil photographique pour soigner. Donc, j'en viens à la pratique photographique, que quand on regarde une image, je vous en montrerai une.
Alors, il faudrait nous dire dans quel cadre elle a été prise.
Oui, je m'explique. Donc, moi, en fait, quand je photographie quelque chose, forcément, c'est une photographie du réel. On ne peut pas faire une photographie sans le réel. Ce n'est pas possible. On est forcément assez référentiel. Quel que soit le sujet qu'on photographie, on a affaire. On doit d'ailleurs se débrouiller avec le réel, ce qui est super intéressant aussi d'un point de vue thérapeutique, d'ailleurs. Donc, c'est une photographie de quelque chose de réel, ça c'est sûr. Donc je me suis adressée, c'est une série qui s'appelle Magnolia, qui est exposée à Bruxelles jusque fin juillet. Et Magnolia, c'est une série de portraits d'hommes à qui j'ai proposé de les prendre en photo. Et en fait, je leur ai dit, voilà, je vais faire une série de portraits d'hommes, est-ce que tu veux bien poser pour moi? Donc c'est ce que je connais ou je ne connais pas, c'est de toute façon, ça n'a pas d'importance. Et à partir du moment où ils étaient d'accord, je leur disais, le sujet c'est l'homme en relation au féminin. C'est-à-dire que quand je fais de la photographie, moi ce qui m'intéresse c'est de faire de la photographie, mais pour moi ça dépasse la photographie. Ce qui m'intéresse c'est d'utiliser la photographie un peu comme un prétexte, comme un doudou en fait. Je souhaite que les personnes qui rentrent dans ce jeu photographique avec moi, au moment, s'accrochent et s'attachent au processus photographique passionnément. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils mettent en branle leur imaginaire et qu'ils aient envie, avec moi, que dans une espèce de jeu photographique, d'essayer de mettre dans une image quelque chose qui est parfois incertain, parfois paradoxal, mais qui a une importance parfois vitale pour eux. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans cette photographie? Donc, c'est très objectif. Je pense que tout le monde reconnaît ce que c'est. Et en même temps, donc lui, parce que je pousse le processus imaginaire, on discute, éventuellement je leur demande de me dessiner la manière dont ils se représentent, puisqu'ils doivent se représenter eux-mêmes dans leur relation au féminin, dans une photo, de manière symbolique. Donc c'est ça le but du jeu, on va dire. Donc ici, cette personne, en fait, m'a raconté que lorsqu'il a appris à marcher, au moment où il a appris à marcher, et c'est ça qu'il a voulu mettre dans l'image, c'est le moment juste avant de pouvoir marcher. Donc c'est comme s'il retombait en voyage dans le temps, dans une photo. Au moment où il a appris à marcher, en fait, il y a quelqu'un dans sa famille, une des femmes les plus importantes dans la famille, qui a perdu la possibilité de marcher. Donc dans le roman familial et dans toute l'histoire relationnelle et imaginaire de cette personne, pouvoir marcher voulait dire que quelqu'un ne pouvait plus marcher. Et donc, c'est ça qu'il a voulu mettre en forme dans cette image. Donc, c'est là où on a une double lecture, en tout cas pour lui, dans cette image, c'est que c'est à la fois réel et imaginaire. Ceci dit, lui, quand il revit cet instant dans cette photo-là, il est certain que symboliquement, chaque fois qu'il va pouvoir regarder cette photo, il va pouvoir réattester son histoire et en même temps il la revit relationnellement avec moi et donc il libère quelque chose. Donc c'est vraiment un bon exemple d'une photographie qui est à la fois la photographie du réel et la photographie de quelque chose d'imaginaire.
Émilie, si oui. Tu avais demandé à ce même personnage de se dessiner, puisque tu as parlé du dessin, est-ce qu'il y aurait eu le même pouvoir actif?
Il s'est dessiné, hein, donc le dessin, en l'occurrence, il passe par le dessin s'ils ont envie, donc il s'est dessiné, et alors ce qui se passe, c'est que moi je prends le dessin comme un reflet, c'est une photo imaginaire, et elle en fait la même chose. Donc cette photo est une copie littérale du dessin qui avait été fait, et par rapport au dessin, il avait pu me dire, raconter l'histoire, me dire dans quelle émotion il était, dans quelle sensation, ce qui lui passait par la tête. Ce qui s'est passé après moi je fais un choix d'artiste sur l'image que je choisis à la fin. qui s'est passé après, si on avait regardé les planches contact, c'est qu'il y a une libération, il s'est relevé, il a joué, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et donc là, c'était vraiment pour montrer cette double lecture. Donc si on veut le dire avec Barthes, en fait, il y a le niveau de lecture qui est le punctum, qui est vraiment ce niveau où on reconnaît tous la même chose, c'est une lecture qui ne nous affecte pas vraiment. Et puis, il y a ce qui, dans l'image, peut venir nous toucher, c'est l'image. C'est quelque chose dans l'image qui vient nous affecter. Et je pense que même quand on s'approche d'une image comme celle-là, ou en tout cas, toutes, il y a une trentaine d'images dans cette série, elles ont toutes des zones et des détails qui peuvent venir déclencher en nous quelque chose. Pour dire donc que l'image, et c'est là où elle est spécifiquement thérapeutique, elle est hétérogène. C'est à la fois quelque chose de tangible, on peut même la tenir dans la main, c'est quelque chose d'hyper réaliste, d'hyper objectif, qui est très rassurant à ce niveau-là, qui va attester en plus de tout ce qui se passe, mais c'est un papier, mais c'est un papier qui est vraiment un support d'émotion. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est un support d'émotion, donc à partir du moment où face à une photographie, tout d'un coup il y a quelque chose d'affectif qui a l'occasion de se relancer, l'imaginaire, ça advient, et en plus, ce qui est extraordinaire, et c'est ça la grande différence par rapport au réel, par contre, c'est que c'est un document. Finalement, on a le même rapport à la photographie que face au réel, sauf que le réel nous échappe tout le temps, tandis qu'une photographie, ou la photographie, ça existe. Donc dans des ateliers à vocation artistique, avec des photographies, si la personne à un moment donné remet en route quelque chose de personnel et que ça se documente, on le documente en photographie, l'intégration est complète et chaque fois qu'elle pourra remettre les yeux sur la photographie, elle revit cette sensation. Donc il y a un accroissement du sentiment de réalité à un niveau objectif et à un niveau subjectif et chaque fois qu'on regarde l'image, ça relance. Donc c'est vraiment ça la spécificité thérapeutique de la photographie. C'est très spécifique parce qu'elle est référentielle. Elle est référentielle et pour nous, c'est vrai. Ce qui est dans une photo est vrai, c'est indiscutable, c'est irrépressible. C'est comme ça qu'on les regarde. On ne peut pas les regarder autrement. C'est vraiment impossible.
Est-ce que tu nous donnerais un exemple, Émilie, de ton travail, par exemple, le projet Belle comme une image? Tu avais prévu d'en parler ou pas?
Je peux en parler aussi. Je peux donner un autre exemple ici, parce que les photos sont plus grandes. Donc ça, c'est une autre photo donc de la même série. Hein. Donc c'est toujours ces hommes à qui je propose de me dire... C'est quoi pour toi la relation au féminin, quelle que soit la manière dont ils conçoivent le féminin? Donc je leur dis pas que le féminin c'est une femme ou un objet, c'est qu'ils choisissent, ils font ce qu'ils veulent. Donc là, ça s'est révélé thérapeutique, mais vraiment au sens propre, sans que je le sache, parce que ça se passe en deux temps. Parfois les personnes, parfois on soigne quelque chose au passage au moment de la prise de vue, parfois ça se passe quand ils découvrent l'image, parfois ça se passe quand c'est des ateliers qu'on expose à la fin. Quand il y a du monde et que tout d'un coup ils regardent les photos et que les autres font des commentaires sur les photos, c'est extraordinaire, c'est que ça peut se passer n'importe quand. Donc lui m'a dit qu'il voulait revivre, en tout cas mettre dans une photo un moment de rêverie profonde, c'est-à-dire qu'il a des moments de... c'est des siestes en fait. C'est des siestes assez profondes quand il va pas très bien. Et qui voulait donc on mette ça en photo, c'est quand il va pas bien, il fait des siestes, et dans ces siestes, il mobilise de manière imaginaire sa mère. Ok, pourquoi pas? Je lui demande où il veut faire ça, où est-ce que ça serait le mieux, donc on va là dans cette chambre et on fait cette photo. Moi je fais comme si, ça aussi ça a été dessiné, je fais comme si effectivement il est dans une sieste, et s'il me dit qu'il y a comme si il y avait sa mère, alors on fait comme si elle était là dans l'espace et on discute, on fait la photo. Et dans un deuxième temps, en fait, c'est là, c'est intéressant sur la temps du réveil imaginaire, il m'a dit qu'en fait, cette photo lui avait permis de faire face à la réalité. Donc, en fait, en faisant cet exercice, son objectif était de pouvoir regarder la réalité en face. Alors, après, si j'étais thérapeute, effectivement, j'essaierais de voir ce qui serait souhaitable qu'il voit dans cette photo, mais là, ça ne me regarde pas. Je suis dans un travail artistique ou alors en atelier, et donc là, je... lui laisse juste voir ce qu'il a envie d'y voir. J'ai supposé qu'il se voyait seul dans cette photo, je pense qu'il se voyait seul et que c'était ça qu'il voulait être capable de voir. Puisque quand il est dans son imaginaire, dans ses siestes, il n'est pas seul. Donc ça, c'était un autre exemple. Et en fait, cette série, pour revenir à ce projet Belle comme une image, cette série où je demande en fait aux personnes de performer quelque chose de personnel, hein, de me montrer en fait comment ils sont reliés au réel, comment ils se posent dans leur existence de manière imaginaire, pour que ça soit significatif. C'était la suite donc, d'un autre projet Belle comme une image, qui était des ateliers de médiation artistique, où j'ai fait la même chose avec des femmes maghrébines pendant 5 ou 6 ateliers. Donc, pour donner un exemple, mais je l'ai juste en petit, la photo, donc elle pourra circuler. Ce qui est vraiment intéressant...
Dans cet atelier, c'est également toi qui faisais les photographies, pas les femmes.
On a fait de tout, hein, donc c'était 12 ou 15 ateliers. Donc, je travaille... Tous ces processus imaginaires doivent tourner autour du document photographique. Donc, c'est document photographique, c'est une photo de soi dans son sac, c'est... Des photos d'artistes photographes, c'est faire des photos, donc elles ont aussi fait des photos, et c'est les prendre en photo, c'est faire du collage après, on peut utiliser la photo de toutes sortes de manières. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais. Et je terminerai là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant et spécifique à la photographie, c'est qu'on peut croiser ce que Barthes appelle le « ça a été », donc le fait que quand on regarde une photo, les choses ont eu lieu, et c'est indiscutable. Et le « ça a eu lieu », le fait que les choses ont eu lieu, c'est-à-dire qu'elles nous sont advenues émotionnellement, qui est quelque chose qui est beaucoup plus psychologique, puisque c'est là où on amène le pédopsychiatre Winnicott et tout le phénomène imaginaire. Donc j'ai eu, ça je peux vous en donner un exemple concret, donc il faudra juste la face tourner. Donc j'avais eu une femme, je leur demandais de raconter un souvenir de leur vie de femme.
Quel était l'enjeu de cet atelier?
Les ateliers, c'était un centre d'art contemporain à Bruxelles, donc le WIS, qui travaille en médiation artistique avec des femmes de la Maison des Femmes, donc c'est un quartier assez populaire, et les femmes de la Maison des Femmes de Forêt ont demandé à faire de la photographie. Et donc le WIS m'a laissé cette liberté parce qu'ils connaissent mon travail, que ce soit pas simplement, mais ça générait déjà d'autres choses, hein, mais simplement de la photographie, mais m'ont laissé proposer toute une méthodologie pour travailler l'identité au travers de l'image. Donc ça a été une réflexion sur une douzaine de matinées de 3 heures avec un groupe de 15 femmes toutes musulmanes qui apprenaient le français. De tiens, au fond, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, et comment, c'est pareil qu'avec ces hommes, hein, c'est comment est-ce qu'on se représente, qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire comment est-ce que je me représente mon identité, comment est-ce que je la vois. Et on a travaillé avec des objets, des souvenirs, et donc leur demander.
Par exemple, la première séance, tu démarres par quoi? Elles adorent se présenter comment?
Je dis qu'on va faire un atelier sur l'identité féminine au travers de la photo. Je dis qu'il y a des photos de femmes partout, enfin qu'il y a des photos partout, que c'est quelque chose d'hyper simple. Et je dis qu'on a déjà une photo de soi dans son sac, c'est vrai, si vous regardez tout dans vos sacs, on a tous au moins une photo de soi dans son sac. À ce moment-là, donc, au lieu de se présenter en disant « moi je m'appelle Émilie, je suis photographe, je travaille depuis ce temps », c'est à partir de la photo. Mais ça génère quelque chose d'incroyable, parce que dans un groupe comme celui-là, ce ne sont quasiment que des photos de passeport. Pour des femmes en exil, alors vous imaginez que se présenter au travers de sa photo de passeport quand on est en exil, ça génère des récits qui sont beaucoup, on est tout de suite beaucoup plus dans le concret, on touche à des choses magnifiques. Et après, donc la deuxième étape, c'était les faire parler autour, donc j'avais mis 100 photos de femmes sur une table, donc ça allait de Nadine Godin à Diane Arbus. Le point commun était que c'était des représentations de femmes et des photos de grands artistes pour les amener à découvrir ce que c'était que la photo artistique, que c'était quelque chose d'important. Puis après, c'était amener un objet de leur vie de femme, se dessiner avec cet objet.
Ça pouvait être quoi, du coup, cet objet?
Ça pouvait être, par exemple, je vous en montrerai une qui était assez émouvante. Ça pouvait être des... Là, ici, il y a de la layette. On peut les passer. Ça pouvait être des valises, parce que j'ai fait 5 fois. Donc, il y a eu plein de nationalités différentes.
Donc, elles arrivent avec les objets. Ouais.
Puis, après, tous les problèmes droit à l'image. Donc, il y a les objets, les dessiner, se performer avec l'objet. Ou alors, raconter un souvenir, se dessiner dans le souvenir. Puis, il y a tout ce travail. Moi, je leur demande d'identifier les sensations, les émotions et ce qui leur passe par la tête. Ça permet d'ancrer quelque chose. Et alors, parfois, il y a des réparations au passage. C'est-à-dire que c'est celle-là que je voulais raconter. Donc, j'avais une femme qui avait ramené une... ici, en plus, je leur ai dit, aucun souci, parce qu'on ne voit pas les visages. Donc, elle avait ramené la robe brodée. Et puis, elle a raconté que c'était une robe que sa mère avait brodée dans sa petite enfance quand elle avait 4 ans. Donc, elle s'est dessinée avec sa mère... qui brodait la robe. On fait la photo, et puis la semaine d'après, je ramène la photo, et là, c'est là où il y a vraiment un croisement de quelque chose qui était d'ordre du ça a été et du ça a eu lieu, qui est intéressant, parce qu'on a reconstruit l'histoire. Et là, avec la photo sur la table, en fait, elle a dit, ou elle a 4 ans dans cette reconstruction du souvenir dans la photo, et puis là, elle a dit qu'en fait, jusqu'à ses 7 ans, elle avait été confiée à sa tante. Donc elle croyait que sa tante était sa mère. Grosse émotion. Et puis, donc, moi, je reste collée à la photo et je lui dis, mais tu as quel âge dans la photo? 4 ans. Et je lui dis, c'est qui? C'est ta mère dans la photo, c'est ta tante. Et donc, c'est ma mère. Et là, ça devient extrêmement intéressant d'un point de vue thérapeutique. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on refait l'histoire. Parce que ce qu'elle a ramené, c'est sa mère dans sa photo à un âge plus jeune. Et en fait, effectivement, donc après, on voit très bien ce qui se passe au niveau corporel, dans la relation à l'image. Il y a une énorme émotion. Elle a aussi pu s'exprimer devant le groupe, donc verbaliser quelque chose qui était très important. Ça a été contenu par le groupe. J'ai eu souvent, parfois, 4 ou 5 femmes en larmes autour de l'exercice comme ça. Et puis, après, elles partent avec leur photo. Et voilà, la photo, elle peut la mettre sur le frigo. Et ça, je peux vous garantir que c'est une photo d'elle et sa mère. Elle se voit. Hein. Ça, c'est... Voilà, je pense que...
Est-ce que tu... On peut avoir un petit peu de temps encore. Est-ce que tu veux nous raconter un autre atelier qui serait celui que tu as fait, que tu avais été engagée par un anthropologue dans un quartier de Bruxelles?
Ah oui, c'était autre chose. Okay. Donc, il s'agissait d'une longue mission. Donc là, c'était une mission participative. Donc ça va permettre peut-être de faire des... Donc là, c'est ce que j'appelle, moi, de la photographie thérapeutique. En tout cas, bon, il y a une théoricienne de la photothérapie qui fait cette distinction. Photothérapie, c'est la psychothérapie. Photographie thérapeutique, c'est toute pratique photographique qui génère un mieux-être. Donc là, c'est dans un quartier très populaire à Bruxelles, derrière la gare du Midi. Et on m'a demandé pendant 8 mois de constituer un groupe d'habitants et de travailleurs pour explorer le sentiment d'insécurité. Donc, c'était quand même une tâche délicate parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de musulmans, où il y a beaucoup de drogue aussi, beaucoup de délinquance. Et donc, aller photographier, envoyer, donner les appareils photo à des personnes fragiles et leur dire « C'est quoi ton sentiment d'insécurité? Va faire des photos. » Enfin, je veux dire que c'est mission impossible. Donc, c'est là que j'ai créé aussi une méthodologie imaginaire. Je me suis dit que le but était de changer de point de vue, enfin, que c'était ça, c'était une mission photographique dans un quartier et que le but était quand même de pouvoir changer de point de vue sur le quartier ou en tout cas ne serait-ce que montrer son point de vue du quartier. Et donc je me suis dit, pour y arriver, il faut que je mobilise une image. Donc j'ai appelé ça la baguette magique. Ce qui m'a permis, donc c'était le thème de l'atelier, ce qui m'a permis de tout au long de l'atelier de leur dire, ok, s'il y avait une baguette magique, t'irais où dans le quartier et qu'est-ce que tu fais? Ce qui permet de mobiliser des ressources imaginaires en même temps qu'on va aller faire des photos. À la fin, on croise les deux. Donc ça, c'était magnifique. C'était un groupe d'une dizaine de personnes. Ce qui était magnifique, c'est de pouvoir travailler un peu dans la durée. Et j'ai vu, là, j'ai vu des déclics réels. C'est-à-dire des personnes qui sont dans des ateliers comme ça, où ce sont les personnes qui photographient leur environnement, qui font les photos. On voit des révolutions de vie, des personnes qui se remettent au travail, des personnes qui se resocialisent, qui retrouvent une estime d'eux-mêmes. Alors, on ne peut pas prévoir autour de quels détails ça va se passer, mais ça se passe, ça c'est certain.
Très bien, merci beaucoup Émilie. Je crois que cet atelier-là va pouvoir permettre d'enchaîner avec Claudie. Alors, Claudie, tu interviens depuis 20 ans en prison. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené à le faire?
Je ne sais pas.
Mais encore. Personne ne t'a mis un Kalachnikov sur l'épaule droite.
Oui, peut-être parce que personne ne l'a demandé. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait photographiquement Donc Albert Kahn, déjà, tout a été photographié, et pourquoi refaire des photos quand ça a été aussi bien fait avec une telle liberté? Et finalement, les seuls lieux qui ne peuvent plus être photographiés aujourd'hui, c'est pas le fin fond de l'Amazonie, c'est pas l'Himalaya, ce sont des institutions derrière le mur, à côté de chez nous. C'est ça qui m'a amené. C'est ma liberté suprême d'aller en prison.
Vous pouvez parler plus fort,
s'il vous plaît. Difficile, très difficile.
Est-ce que tu as décidé, très rapidement, pardon, excusez-moi, tu as fait pas mal d'ateliers, mais assez vite, je crois, tu t'es orienté vers des ateliers avec des adolescents en prison. Pourquoi est-ce que tu as privilégié les adolescents?
Je ne travaille qu'avec des adolescents, pour la simple raison que j'aime bien les adolescents, ils ont une sincérité et un côté radical que les adultes n'ont plus. J'avais fait tout au début une intervention, j'étais à la santé pendant un mois avec des adultes. En fait, il y a, bon, c'est un instant de survie, il y a presque une manipulation de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Après, les adolescents sont dans une saute de la falaise sans se préoccuper des conséquences. Et c'est en ce sens-là que c'est passionnant de travailler avec eux, parce qu'ils ont un juste boutisme et ils ne calculent pas. C'est des artistes dans l'âme qui ont mal fini.
On peut peut-être revenir justement sur l'année que tu viens de passer, puisque tu as refait, alors tu n'avais pas fait depuis longtemps, je crois, hein, tu as refait des ateliers avec des adolescents. Combien étaient-ils? Dans quel cadre? Tu peux leur raconter ça?
Voilà, donc j'ai commencé en 95 à faire une origine, parce que je ne sais toujours pas pourquoi, mais j'ai commencé. Je ne savais pas si j'allais tenir une minute, je ne savais pas si ce serait possible, je ne sais pas si c'était permis. Et à l'époque, on m'a demandé si je voulais faire un reportage. Déjà, je ne me sens ni thérapeute, ni photographe, mais je suis photographe parce que je fais des photos. Et j'ai demandé, parce que c'est vrai, on me demande pourquoi les prisons, il n'y a toujours pas de questions, quel est l'effet thérapeutique. Et j'ai demandé aux jeunes un jour, c'est quoi pour vous un effet thérapeutique de la photo? Ils ont dit, l'effet thérapeutique, c'est aller au McDo, c'est pas la photo. Quelque part, la photo, elle a un effet thérapeutique. Je dirais que toutes les choses de bien qu'on fait pour soi, c'est un effet thérapeutique. Donc, un atelier qui se passe bien avec une finalité, il y a toujours une exposition à la fin, il y a une reconnaissance de ces gens qui n'ont jamais été reconnus dans la vie. En ce sens-là, c'est thérapeutique. Mais le premier pour qui c'est thérapeutique, c'est moi. Je fais des... Voilà, si je peux répondre à la question du début, je fais des ateliers en prison par effet thérapeutique pour moi-même. Et la question, c'était... j'ai commencé en 1995, on m'a demandé le reportage long ou court. J'ai dit non, alors ce sera 2 heures. Et vous avez très long? Non. Et donc, j'ai passé un an à discuter avec le ministère de la Justice que moi, je voulais un reportage. Alors, surtout, je ne dis jamais que je suis photographe en prison, parce que ça fait peur. Je dis que je suis artiste, avec un grand A. Ça, c'est les rassurants, parce que je dis que je suis artiste et que j'écris de la poésie. Alors là, ils sont complètement rassurés.
Ah, c'est-à-dire que tu es parfaitement inoffensif?
Je suis complètement inutile à la société. Et c'est pour ça que je peux le faire depuis longtemps. Et donc, je dis, voilà, je veux pendant 3 semaines, 7 jeux de coups, 7, parce que j'aime bien le chiffre 7, et je veux qu'il soit disponible pendant toute une journée, qu'il n'ait plus droit aux promenades, qu'il n'ait plus droit à aucune activité, sauf les visites de parloir, et bien sûr, quand le juge ou l'avocat vient le chercher, ou qu'il doit être condamné au tribunal. Donc, ça a mis un an à se mettre en place.
C'est-à-dire que tu modifies l'emploi du temps, tu recadres dans une autre temporalité qui est la tienne.
Temporalité et spatio-temporalité. En prison, il y a un métro long, c'est le mouvement. Mm-hmm. On se déplace d'un point à un autre parce qu'il y a l'invasion. On va à l'infirmerie, on va à l'isoloir, on va. Et j'ai cassé ça. Et donc, ça veut dire que j'ai mis en place, ça a été accepté, ces périodes de 3 semaines, j'aime beaucoup aussi, période de 3 semaines.
C'est-à-dire que tu tiens pas davantage ?
C'est déjà long, 3 semaines. C'est très très long, 3 semaines. Je ne pourrais pas plus. Et tous mes voyages se font sur 3 semaines aussi. Et j'ai tenu 7 ans. 7 ans, parce qu'après, on m'a dit vous faites trop de bien aux détenus, donc il faut arrêter. Ça m'apprendra. Et après, cette année, en 2013, la DRAC est revenue me voir parce que, avec une émission sur France Inter, comme quoi il faut intervenir pour faire de la com. J'avais parlé avec Brigitte Patient des prisons, et la personne que je remercie vraiment, Christian Gaillard, chargée de la culture à la DRAC, a entendu ça et s'est dit mais il faut faire quelque chose à Florian Urgis de nouveau. Et maintenant je me rends compte que plus ça va mal en prison, plus on fait appel à des gens comme moi.
Tu veux dire parfaitement inoffensif ?
Parfaitement inoffensif, ils s'aperçoivent tout de même, ils, c'est un très bon nom, mais c'est l'administration pénitentiaire, s'aperçoit tout de même qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans, disons, dans le comportement de ces jeunes gens. Et je dirais, moi je me retrouve, il faut voir ça concrètement, le premier jour, le premier moment, je me trouve en train de monter, déjà qu'on ouvre toutes les portes, je me trouve dans une cellule spéciale pour dédiée à la photo, et j'ai face à moi Momo, Djamil, Doumar, Bouba, Omar, Pedro, Traoré, Stébo, pas de Julien, pas de Claudine, peut-être de Claudine, mais il y a 95% de 10 000.
On va essayer peut-être que le mien marche plus, effectivement.
Allô ?
Ouais, on essaye.
Et donc, il faut quand même savoir qu'en France, même si dans pratiquement tous les pays, qui va en prison, ce sont les deuxième, troisième génération d'immigrés. Faut savoir qu'il y a un tribunal où il y a des jugements à Paris, un le matin, un l'après-midi. Le matin, comme disent les jeunes fleuris, c'est pour les blancs. L'après-midi, c'est pour nous les autres. Le matin, c'est très très rare que ça se termine par une mise en détention. L'après-midi, c'est très très rare qu'ils ne se retrouvent pas en prison. Donc, c'est une société très juste que nous avons créée. Et donc, on fait appel à des gens comme nous, maintenant, pour intervenir dans les prisons, parce que, tout doucement, on se rend compte que, finalement, les prisons, ça ne sert pas à grand-chose. Et on l'a dit et répété, que c'est l'école du crime, mais voilà, maintenant... Alors, c'est vrai qu'on me demande mon avis sur les prisons. Je ne suis absolument pas un spécialiste. J'ai un peu de kilométrage et surtout je suis environ 20 ans en affaires. Mais je m'aperçois que ce que je faisais entre 1995 et 2000, ce ne sont absolument plus les mêmes jeunes. J'ai des gens, la première seconde dans cette cellule, aussi silencieux que vous en face de moi, mais eux sont beaucoup plus suspicieux que vous. C'est-à-dire encore plus suspicieux que vous. Et avant même que j'ai parlé, ils ont des antennes, parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi je le fais en prison, je ne le fais pas dans des hôpitaux psychiatriques, je ne le fais pas dans des écoles, je ne le fais pas avec... Je le fais dans les prisons, avec les adolescents, parce qu'ils sentent avant qu'on ait dit le premier mot. Et ce qui est pour moi absolument passionnant, ce sont les jeunes gens qui ont... très souvent un problème, qui ont un rapport à la langue extrêmement compliqué, et finalement, la photo déclenche le langage. Et en fait, nous n'arrêtons pas de parler. Et ça, pour moi, c'est essentiel.
Alors ça rejoint un petit peu finalement ce que disait Émilie, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le plus important, ce serait presque de lire les images plus que de les faire.
J'étais très étonné parce que, donc c'est vrai qu'après Florine Rogis, je suis revenu, je sais que c'est très difficile maintenant, où lors du vernissage des jeunes, monsieur le président de l'Olympus.
Présent ici.
Ah, qui est présent. Ah, ben. Ah, Didier.
Bonsoir.
Qui a donné les appareils photo pour que l'atelier se fasse est venu. Donc, c'est dire s'il y avait un parterre de premier rôle et de classe. Et c'est très important pour ces jeunes qu'ils soient récompensés de cette manière-là, mais surtout, je pensais qu'au début, ils allaient... Alors c'est vrai, ils ont plaisir, hein, donc on leur dit, voilà, le droit à l'image, ne faudrait pas les surveillants.
Ouais, surveillants, clac.
Mais c'est souvent, est-ce que vous voulez bien venir dans le bureau du chef de détention, il y a un problème. Bon. Donc j'explique qu'aucune de ces photos ne sortira sans mon, d'abord, mon élagage éditif, et qu'ensuite, toutes les photos sont soumises à l'administration pénitentiaire. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'une fois qu'ils ont fait le tour de la prison, c'est-à-dire qu'ils ont cassé ce mouvement, ce rythme, ce qu'ils aiment, c'est se renfermer, parce que les jeunes en France sont seuls dans leur cellule. Ils aiment s'enfermer dans un espace clos et parler. Parler, parler, parler. Ils sont intenables, ils sont, je dirais, c'est comme mettre la musique à fond. Ils parlent, ils hurlent, ils vont à la fenêtre.
Ouais, maman !
Ils sont très très vifs. Et comme vous l'avez entendu, moi je ne suis pas très vif au niveau de la voix. Et ce qui est incroyable, c'est que j'arrive quand même à les tenir 3 semaines. Et ils arrivent à faire quand même, Didier, tu me contrôleras, des photos absolument magnifiques.
Donc, si on reprend le principe, tu leur donnes des appareils photo, Didier,
oui.
Voilà, ils sont responsables de leur appareil.
Oui.
Tu leur donnes un tel.
Mais non, ce qu'ils voient, après c'est vrai.
Il faut nous ramener.
Non, justement, on m'écrit, voilà, je voudrais faire un atelier en prison. Les 3 premiers jours, on va faire la théorie de l'image. Ensuite, on va faire. Le ponto et le studio, et après on va terminer par. Bah après, ça ne va jamais se terminer, d'ailleurs ça ne va pas commencer. Je donne les appareils photos, ils sont extrêmement fiers d'avoir des appareils photos, c'est un bien. S'il y avait un relais avec l'appareil photo, ce serait encore mieux, mais ils aiment beaucoup le matériel.
C'est un appareil photo numérique. Hein.
Alors ça a changé avec le temps. Avant, 95-2000, c'était des argentiques, et ils apprennent sur l'erreur. Et bien sûr, avant, on développait, tirait dans le labo nos propres photos. Et c'est là où j'ai fait venir aussi des jeunes photographes, qui ont, des jeunes par l'esprit, qui ont regardé les travaux moi je les appelle des apprentis photographes. Et c'est là où il se déclenche quelque chose. C'est que soudain, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose et en plus, ils ne sont pas punis. Donc c'est bien. C'est thérapeutique.
Est-ce que, je vais poser une question volontairement très cliché pour que tu puisses rebondir, est-ce que ces ateliers constituent une forme d'évasion pour eux?
Alors un de ces jeunes photographes, Henri Cartier-Bresson, a dit que c'était une activité libératrice. Et libératrice dans le sens où c'est quand nous étions enfermés dans la chambre noire qu'ils s'évadaient le plus. Je n'ai jamais voulu qu'il y ait de la musique, j'ai interdit qu'il y ait des chaises. Il restait de 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Le soir, je devais les pousser et dehors pour qu'ils rejoignent leur cellule. Et en ce sens-là, c'est une activité libératrice, mais par l'esprit.
Mais est-ce qu'en même temps, peut-être ça leur donne le sentiment de s'évader, mais en même temps, est-ce que ça leur donne pas la conscience du lieu où ils sont davantage?
Excellente question. Bon, les jeunes, on va photographier. Il n'y a rien à photographier. Qu'est-ce que tu veux qu'on photographie? Eh bien, on sort et on photographie rien. Et soudain, il y en a, il faut bien le savoir. Les jeunes sont arrêtés, il y a des jugements, hein, et l'instant d'après, ils sont en prison. Vu que, par exemple, si on parle de Florine Avalis, je le fais un peu partout maintenant, mais enfin, c'est pas vrai, pas partout. Là où je sais que je pourrais travailler sur le long terme, et c'est la police. Et là où je dirais, ça m'angoisse à chaque fois. Là où j'arrive à avoir une certaine, je dirais, crédibilité face à eux, c'est lorsque je leur montre que ce rien, il s'imprègne, il y en a une trace.
Tu m'as dit une chose très belle quand on a préparé cet entretien. Tu m'as dit, tu sais, les ados, ils n'ont pas conscience d'être en prison. Et je vais te laisser
cultiver. Oui, c'est aussi beau que tragique. C'est-à-dire que, voilà, ils se retrouvent en prison et Fleury Fleury, c'est un bon nom. Fleury a été construit dans les années 70 exactement sur le même principe que tous les HLM d'où viennent 95% de ces jeunes. Et il retrouve exactement les mêmes habitudes, je dirais, en tout cas la même architecture, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en prison, parce qu'il y a une telle, je dirais, ils sont tellement délaissés, ils sont tellement seuls face à eux-mêmes, ils sont dans une... c'est un domaine sans, ils sont dans une... ils sont même pas face à eux-mêmes, ils sont face au vide, ils sont face à l'infini. C'est terrible d'être face à l'infini.
Et alors, quand ils font des photos, il se passe quoi ?
Alors voilà, quand ils font des photos, c'est là où c'est très intéressant. Moi, je dirais, c'est très important pour moi, comme on dit en français, l'editing. C'est là où je les oriente, où je leur demande de mettre des mots sur les photos. Mais justement, j'ai très peur de tous ces mots, thérapie, tout ça. Mettez vos mots. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo ? Et je dis, moi, je la trouve intéressante. Lui, il dit qu'elle est nulle. Alors pourquoi ? Elle est nulle, intéressante. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que soudain, ils s'aperçoivent qu'ils ont le pouvoir de donner une image et du lieu, mais surtout d'eux-mêmes. Et il y a quelqu'un vraiment qui, pour moi, est très important, qui s'appelle Stanislas Tomkevitch, qu'on ne connaît pas beaucoup. Il a travaillé sur les adolescents, bon, le ghetto de Varsovie, etc. Et lui, par exemple, quand tu lui as demandé pourquoi il travaille sur les adolescents, il a dit d'abord parce que je les aime, et je pense que c'est important, ils le sentent, que je n'ai pas peur d'eux, je n'ai jamais eu peur en prison. Et après, il a dit aussi, parce qu'il a été dans les camps, il a dit parce que aussi on m'a volé mon adolescence. Et peut-être si je suis plus tout simplement. Plus intime, plus, je dirais, parce qu'on partage ensemble une souffrance, et quelle que soit la mienne ou la leur, mais on a ça en commun, et ils le sentent. Et il ne faut surtout pas venir, quand vous irez en prison, n'allez surtout pas avec des bons sentiments. Là, ils n'aiment pas se sentir dans le rôle de celui qui a besoin d'aide.
Émilie, est-ce que la thérapie, c'est autant pour l'autre que pour soi-même ?
C'est pas de la thérapie, là. Enfin, attention, parce que une psychothérapie, c'est autre chose. Hein. C'est, on décide de prendre rendez-vous et on va payer. Et c'est un cadre, c'est des entretiens d'une heure et tout. Non, je pense que c'est avant tout une relation et que la photographie, c'est très relationnel. Je suis d'accord avec lui, je pense qu'avec les adolescents, les adolescents, ils sont hyper instinctifs. Moi, je travaille en psychiatrie avec des adolescents depuis 4 ans et je partage quelque chose de très personnel avec eux aussi, qui est de l'ordre de choses très, très aiguës de l'adolescence. Mais avec les adolescents, c'est particulier parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas tricher. Et bon, moi, avec les adolescents, c'est évident qu'il y a quelque chose de personnel que je travaille avec eux. Chaque fois que je travaille, c'est que ça se répare, ça se soigne. Je suis vraiment contente. Tous les étés, je travaille avec des adolescents à l'hôpital et c'est le moment de l'année où pour moi, ça passe des vacances. Voilà. Mais non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Sinon, dans les ateliers de médiation artistique, c'est pas à chaque fois on soigne quelque chose.
Non, mais la question était en fait beaucoup plus simple que ça. Ouais. Est-ce que ça vous fait du bien à vous ?
Pas toujours.
Je veux dire les choses.
Pas toujours. Hein. C'est vachement dur par moment. Mm-hmm. C'est vachement dur. Enfin, je veux dire, en tout cas, dans cet aspect-là du travail, vraiment, enfin, on est travaillé avec des publics en grande précarité. On en prend plein la tronche. Parce que, enfin, aussi, si on veut à un moment donné réussir à générer une énergie et arriver à faire en sorte qu'ils prennent les appareils photo et qu'ils sortent et puis qu'ils en fassent des photos, on doit se mouiller, hein. Moi, dans la mission de 8 mois, j'ai dû aller les chercher dans la rue, quoi, les personnes. Donc, il y a une prise de risque. On se met à nu. Je pense que si on ne se met pas à nu, d'une certaine manière, ça ne marche pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est une forme d'authenticité. On travaille face un peu un travail borderline aussi, dans ce cas-là.
Claudie, je voudrais revenir donc à ton expérience. Avant de les lancer comme ça dans la photo, est-ce qu'à un moment tu leur montres des photos ? Parce que je sais que tu as créé une bibliothèque de photos. Comment se passe à peu près le processus des 3 semaines ?
Très très intuitif. Si on n'est pas intuitif, pareil, on s'est éjecté tout de suite. Je crois que c'est la seule bibliothèque au monde qui s'appelle Henri Cartier-Bresson. Et il faut quand même savoir, comme je dirais, la flore de l'urgence, au CGD, au centre des jeunes enfants. Et pardon. Vous n'entendez pas ? C'est pas très intéressant. Mais...
c'est tu alors, tu obliges les gens à écouter attentivement, je crois.
Soyez plus attentifs.
Vous êtes trop près du micro.
On va changer de micro. Donc.
Donc il y a. Donc cette bibliothèque, elle est alimentée comment ?
Alors justement, déjà, j'ai tous mes amis. En tout cas, j'ai fait la demande à des. Entre la maison européenne de la photo ou des photographes personnels, je crois que c'est là où il y a le plus de livres par les photographes dédicacés et adressés aux jeunes de Fleury. Elle est très très bien fournie, mais surtout on va à la bibliothèque quand ils sont prêts à regarder des livres. Et pour qu'ils soient prêts à regarder des livres, c'est un moment spécifique. C'est un moment comme ça où. Il ne faut pas qu'ils soient excités, il ne faut pas qu'ils soient complètement, je dirais, déconnectés. Il faut qu'ils soient voilà, suffisamment concentrés pour que je puisse les mener comme ça, tout doucement, vers la bibliothèque. Et là, je leur propose des livres. Et là, on commence de la. Ça se passe toujours en fin de parcours. Et là, je commence à leur montrer des photos. Et il y avait, par exemple, Camille, qui, à l'époque, on faisait les tirages, qui, bon, un tirage, il faut mettre un peu de contraste, il faut travailler un peu, les intensités, tout ça. Et lui, il faisait tout gris. Tu veux pas faire un effort ? Ah non, monsieur, moi, c'est l'école américaine. Donc, c'est dire que... Non, c'est dire qu'au moment où je leur montre, ils sont capables aussi de voir et d'entendre. Il ne faut jamais les forcer. Pour moi, c'est très important. Ils sont toujours volontaires. Et moi, j'en ressors. J'entre bouleversé, je suis bouleversé pendant et j'en ressors bouleversé. Mais voilà, je le fais parce que c'est difficile. Si c'était facile, je ferais un métier honnête. Mais je ne veux pas que cela se passe sans tension. Et une tension, pour moi, peut être une tension... positive, créatrice. Et c'est pour ça qu'il y a un terme que Durkheim a lancé, qui s'appelait l'anomie, c'est-à-dire anomie, absence de structure. Et c'est lorsque justement la société n'a plus de repères, perd ses repères. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Marie Pouillot, que nous connaissons tous bien, fin 19e siècle, libertaire, et justement qui dit que l'anomie, finalement, ce que l'anomie permet, c'est la création de nouvelles structures, c'est la création de nouveaux comportements sociaux et de nouvelles sociabilités. Et une des manifestations les plus belles qui soient, c'est les plus fortes, c'est la création artistique. Donc, c'est-à-dire que il y a une structure extrêmement, bien sûr, rigide qu'est la prison. Il y a des jeunes qui sont complètement déstructurés, donc bien sûr que ça ne va pas ensemble. Et personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est de canaliser leur énergie brute. Et c'est pour ça que je ne travaille qu'avec des adolescents. Ils sont tous exceptionnels. Très peu sont dans la norme. Ils ont des QI parfois absolument. Ils comprennent tout très rapide, à la détente. D'autres sont bien en dessous de la norme, mais tous sont en dehors de la norme. Et c'est là où c'est passionnant de travailler avec eux. Et c'est là où moi, je ne veux pas justement entrer dans des statistiques, dans des... je me prends toujours dans la figure le fait, avec une balle de foot, ben, on fait participer toute la prison, alors que l'activité de trafic, ça coûte cher, et ça n'engage que 7 détenus. Il y a quantité.
Tu as prononcé à l'instant de la question de l'artistique. Est-ce qu'il y a un enjeu effectivement artistique qui pour toi est important ?
Essentiel. Moi je dis, je n'ai qu'une exigence envers vous, c'est l'exigence photographique. S'ils se tiennent mal, c'est leur problème. Je n'interviens jamais quand il y a un problème entre un surveillant et un détenu. Mais quand même, en 20 ans, je n'ai jamais eu un détenu qui a arrêté l'atelier en cours de route. En 20 ans, il n'y a jamais eu une seule. Au début, on m'a dit, vous allez voir, ils vont tout casser, ils vont tout saccager, c'est des sauvageons. Il n'y a jamais eu une détérioration de quoi que ce soit, d'appareils photo, de photos, parce qu'on met les photos dans la prison, on les encadre nous-mêmes, on met les marie-louises. Hein. Un diamé, mais c'est quoi? C'est un atelier chinois. Donc, je leur explique que ça fait partie du processus de la création, de mettre en œuvre, de mettre en scène, de mettre en espace ces photos. La seule fois où il y a eu un appareil de cassé, c'était là maintenant, avec les appareils Olympus. La petite attache a mal été mise, donc je ne sais pas si c'est la faute à Olympus ou à... si vous saviez comment, parce que l'appareil photo est tombé, si vous saviez le désarroi de ce jeune homme, si vous saviez le désarroi, et j'ai appelé Didier, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment embêté, il y a un appareil photo qui a été cassé, dans l'après-midi, il y avait un nouvel appareil photo, donc merci au plus. Et je voudrais dire que ces jeunes, on m'a dit, vous allez voir, ils vont tout saccager. Ce qui a été saccagé, c'était les surveillants qui sont entrés quand vous êtes du négatif, quand vous n'étiez pas là. Et ça a été très, très, très dur. Ils ont lacéré au couteau les négatifs.
Et pourquoi?
Parce que je fais trop de bien aux détenus. Et il y a un garçon, Foucault, qui a écrit Surveiller, punir. Et je passe de plus en plus de. Alors là, effet thérapeutique avec les surveillants, je parle énormément avec eux. Jamais je ne jetterai la pierre à un surveillant. Il ne faut pas dire gardien, mais c'est pas, c'est surveillant. Et c'est vraiment surveiller, souffrir. La souffrance des surveillants, jamais, jamais je n'ai considéré les surveillants comme des gardes-chiourdes. C'est grâce à des surveillants exceptionnels que je peux faire mes ateliers. Il faut quand même savoir, par exemple, à Fleury, il y a un secteur 14-16 ans qui est vraiment à part, enfin même 13-16 ans. Vous savez qu'en France, on n'est pas un pays démocratique, on peut aller en prison en dur à l'âge de 13 ans. Donc ils ont créé un secteur spécial 13-16 ans. Et donc ça veut dire que les jeunes sont dans des cellules qui sont ouvertes la journée. Il y a un éducateur, surveillant éducateur qui est en survêtement, pas en uniforme, donc voilà, un régime spécial. Ces surveillants, au début, on leur a... Bah, déjà, vous savez tout de suite si vous êtes bienvenu ou pas, parce que moi j'ai 21 portes à passer avant de venir. Parfois on est dehors, s'il pleut, si le surveillant n'aime pas la petite photo, il attend une demi-heure avant de vous ouvrir. Après, il vous dit pourquoi vous n'avez pas appuyé sur la sonnette. Et il n'y a pas de sonnette en prison. Et les surveillants qui ont accepté d'être avec ces jeunes dans des conditions spéciales pour aider les jeunes, on leur a crevé les pneus de la voiture, on leur a fait toutes les misères du monde. Donc ça veut dire que sans des surveillants exceptionnels, je ne pourrais pas faire ce type d'activité.
On disait tout à l'heure que les adolescents n'ont pas forcément effectivement conscience de leur enfermement et que c'est en prenant les photos qu'ils voyaient finalement ce qu'ils n'arrivaient plus à voir, c'est-à-dire le lieu spécifique de l'enfermement et ce que ça veut dire, l'enfermement au vrai sens du terme. Est-ce qu'il y a dans les images qu'ils font des leitmotivs, des thèmes, des motifs qui reviennent?
Passionnante question. Cela se met en place au fur et à mesure de l'atelier. C'est là où on voit, je dirais, l'évolution et surtout le stade de chacun. Il y a quelque chose de très important dans la photographie, c'est la restitution d'une identité. Ils peuvent, grâce à la photographie, se créer une identité. Ils peuvent, grâce à la photographie, donner, par exemple, j'ai beaucoup de jeunes qui vont faire des photos fleuries, mais vraiment florissantes, à côté d'une plante, à côté d'un arbre en fleur, à côté de... Parce qu'ils vont donner cette photo à leur mère, à leurs parents, à leurs amis. Donc, ils vont, pour ne pas faire souffrir leurs proches, ils vont donner une image extrêmement positive. Il y a les autres qui vont photographier les rats morts, qui vont photographier tous les déchets qu'on jette par la fenêtre, parce que il faut quand même voir. Ça pue et c'est sale. Donc, ils vont photographier ça. Donc, ceux qui vont être capables d'aller au-delà d'eux-mêmes, il y en a qui font pendant des 3 semaines que des portraits d'eux-mêmes. Et surtout, surtout, je ne leur interdis pas. Et ceux qui vont pouvoir aller un peu au-delà, c'est ceux qui ont déjà une personnalité plus constituée, plus forte. Et c'est pour ça que moi, ce qui me sert de base, j'ai quand même fait des études de littérature. Comme par hasard, j'ai fait un mémoire sur l'adolescent dans la littérature américaine. Je me suis tout de suite intéressé à ces gens qui ont plutôt considéré une éducation parallèle, libres enfants de Summerhill et Snell, qui disaient plutôt instruire qu'éduquer, ne pas faire des petits robots. Et voilà, ce sont ces gens-là qui sont pour moi des références. Je suis un de ceux, l'éducation nationale mature. Quand j'ai eu ma licence, je suis allé au rectorat, je l'ai fait bref, mais vous savez que c'est très dur d'être prof en France. Et j'ai dit, voilà, je suis à votre disposition, je voudrais être prof dans des collèges très difficiles, sur des périodes très courtes, à mi-temps. C'était du pain béni. En un an, j'ai fait tout le spectre de ce qui s'appelle être prof et j'ai vu des agrégés avec thèse en train de sauter par la fenêtre et je me suis dit bon, c'est pas pour moi et j'ai vraiment réfléchi sur qu'est-ce que éduquer et c'est comme ça que je suis arrivé en prison avec cette notion que tout de même j'ai un bagage que j'applique et surtout ce qu'il faut savoir aussi, autant la prison, bien sûr, on sait que c'est réglementé. Premièrement, c'est le lieu de tous les affects. C'est extrêmement affectif, une prison. Dans une cellule, il n'y a pas le droit de mettre de poster au mur, il n'y a pas le droit à la radio, il n'y a le droit à rien, parce que ça se passe avec le surveillant d'étage. Hein. C'est vraiment dommage. Dans la cellule d'à côté, c'est tapissé de posters, il y a la musique à fond tout le temps. Ensuite, il faut savoir aussi que une fois qu'on est entré dedans, c'est une île. Il y a un champ des possibles que l'on ne peut pas soupçonner de l'extérieur. C'est un peu dangereux de dire ça, mais aussi tous les gens qui interviennent avec de bonnes intentions, l'enfer est semé. Et il faut savoir que toutes ces interventions de l'extérieur, il n'y a aucune régulation. On va dire, il n'y a personne pour dire c'est bien ou c'est mal. Donc parfois, il y a du grand, grand, grand n'importe quoi.
Est-ce que tu as fait donc des photos pendant 20 ans sur la prison, pas simplement en France, mais aussi dans le reste du monde ? Est-ce que ce sont des expériences qui sont très différentes suivant les pays ?
Comme disait Baudelaire, pour les prostituées, toujours les mêmes, j'en ai pareil. Déjà, dans les pays ex-communistes, ce ne sont pas des prisons dans le sens cellule, ce sont des camps disciplinaires en ex-Union soviétique, par exemple, là où, par exemple, dans les pays occidentaux, les jeunes souffrent de la solitude, ils sont 22 heures sur 24 seuls dans la cellule. Dans les camps disciplinaires, ils sont à 50, à 100 par chambrée, par caserne. Et c'est là où il y a toute une hiérarchie qui se crée avec les capots, avec ceux qui sont en bas de l'échelle et qui vont prendre absolument tout sur eux, qui vont être abusés. Et ce sont des expériences, je dirais, au niveau du lieu, très différentes, mais une fois qu'on est avec la détresse de ces jeunes, c'est exactement la même détresse. Mais ce que je fais une fois de plus de manière intuitive, c'est que, par exemple, j'aime travailler avec 7 jeunes avec 3 semaines, dans certaines prisons où je n'aurai affaire qu'à des capots, c'est vraiment des capots comme dans les camps. Je fais un tournus par matinée, j'en prends 7, l'après-midi 7 nouveaux, et comme ça pendant 3 semaines. Et à la fin, ces petits-là qui n'auront jamais l'occasion d'avoir quoi que ce soit, ils servent à table les capots, pour voir comment ça se passe. Donc même eux, ils ont le droit à un moment de toucher un appareil photo. Donc ça veut dire qu'il y a des différences, mais je dirais dans le fond, Mondialement, il y a 80% de récidive chez un adolescent. Donc, ça sert à grand chose pour 20% d'entre eux.
Tu as fait un photopoche, tu as même fait aussi un DVD, mais c'est finalement des productions assez modestes que tu as fait dans l'ampleur de ce que tu as entrepris depuis 20 ans. Je parle d'un photopoche sur les prisons, parce que Claudie a fait beaucoup d'autres choses, mais en ce qui concerne les prisons, tu as produit finalement assez peu de choses. Qu'est-ce qui a fait qu'en 20 ans d'expérience, tu n'as pas eu envie de produire quelque chose de plus important?
C'est une fois de plus l'attitude personnelle. Les prisons, pour moi, ce n'est pas un fonds de commerce. Je n'y vais pas, par exemple, je n'ai pas une prison qui m'attend quelque part. Je peux rester un certain temps sans prison et je me sens très bien. Et puis après, je ne sais pas, ça se met en place. En Amérique centrale, il y a un ambassadeur très très bien, des ambassadeurs bien, c'est comme les survivants. Il m'a dit, j'avais une belle grosse expo, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il pensait, je ne sais pas, un jacuzzi dans ma chambre d'hôtel. Et j'ai dit, monsieur l'ambassadeur, est-ce que je peux aller dans une prison au Salvador? Et comme il était de gauche, il a dit, on va essayer de faire ça. Et j'ai travaillé 7 ans sur le Guatemala et le Salvador, sur 4 prisons. Donc ça veut dire que ça se passe comme ça. Là, par exemple, je vais au Brésil, j'étais vachement content, je reçois un mot du Brésil, je me voyais déjà. Et conférence et expo sur les prisons, et là, c'est moi qui ai glissé la case atelier dans une prison. Et donc, cet été, au mois d'août, pendant que nous serons tous sur les plages, je serai dans les prisons brésiliennes.
Alors, est-ce qu'à chaque fois, ce sont des appareils que tu donnes et ce sont donc les adolescents qui font les photos, ou est-ce que toi aussi tu fais des photos?
Voilà, c'est là où aussi peut-être oui, je devrais faire plus de montrer. Enfin, j'ai en permanence des expositions photographiques sur mon travail dans les prisons. Je dirais maintenant, je m'aperçois, c'est beaucoup plus important ce que je fais. Il y avait certains Cézanne qui disaient le faire savoir et le savoir faire. Ça me suffit de le faire. Et j'ai quand même mis en place ces ateliers pour être, je dirais, légitime dans la prison. C'est-à-dire pour partager quelque chose avec les détenus et non pas être encadré par deux surveillants et faire des photos. Donc, je suis photographe, j'ai une exigence photographique face à ces jeunes et je me sers des jeunes pour faire des photographies personnelles.
Émilie, tu as envie de réagir à ces témoignages d'une façon ou d'une autre, ou ça t'évoque quoi par rapport à ta propre expérience?
Ce que je trouve magnifique, c'est que l'expérience se prolonge dans le temps, qui travaille constamment, toujours, avec, on va dire, la même tranche d'âge, donc, et qu'il puisse de pouvoir travailler dans le temps longtemps avec les mêmes personnes dans le même lieu, ça c'est génial. Ce qui est le plus difficile, donc je me demande comment il a fait. Et puis j'ai en tête les photos de femmes en prison que j'avais vues dans une exposition. Mais parce que c'est vrai que ce qui est difficile dans mon expérience, c'est de voir, c'est souvent, c'était des ateliers à court terme. Et là, c'est dur parce qu'en fait, comme il le dit ou comme moi je le vis aussi, c'est quelque chose de très humain, de très instinctif. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut le vivre vraiment. Sinon, il ne se passe rien. Et alors, quand ça ne dure pas, on lâche le projet dans le vide. Et donc, moi, je mets beaucoup d'énergie aussi pour essayer, avec les moyens du bord, parce qu'il y a quand même une mode aussi de donner 3 francs 6 sous à des centres d'art, et puis alors, faire des petits ateliers. Et les artistes arrivent là, derrière, comme si on avait, je ne sais pas, vraiment, effectivement, comme si on avait pouvoir... Donc, solutionner les choses dans certains quartiers à Bruxelles, c'est comme si il y a certains quartiers où c'est comme si on comptait sur une poignée d'artistes quelque part pour la paix sociale, quoi. Parce que justement, comme il dit, on constate que ça, voilà, ça fait du bien. Alors au départ, ça peut même déranger, effectivement. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de solution, on va mettre des artistes. Mais on se retrouve parfois vraiment à travailler dans des situations hyper chaotiques où on doit essayer d'avoir quand même être correct avec les gens avec qui on fait vraiment quelque chose. On se rend compte que ça, il y a une vraie rencontre. Et puis on sait que ça va s'arrêter. Et les personnes, parfois, on a beau leur avoir dit que ça va durer 2-3 mois. Enfin, je veux dire, certains, ça n'a pas de sens. Plus on va vers des personnes qui sont en situation de grande fragilité, qu'elles soient mentales ou sociales, plus l'échelle temporelle en prison, c'est encore autre chose. Mais l'échelle de rapport au temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Et si on travaille à un moment donné avec, j'avais travaillé avec des infirmières de rue et des sans-abri, enfin je veux dire déjà leur dire reviens la semaine prochaine, on va te donner un appareil, rendez-vous toutes les semaines, ils comprennent pas. Et donc il y a ce truc aussi, le rapport au temps est étrange, et puis après les lâcher dans le vide, c'est d'une violence inouïe. Donc c'est ça aussi qui est difficile, je trouve, c'est que finalement on doit. Parfois, il y a cette question de est-ce que faire quelque chose, c'est bien, mais comment est-ce qu'on va faire pour à la sortie pour que ça ne détruise pas. Enfin, c'est pire que mieux après avoir pas lâché les personnes.
Claudie, c'est aussi compliqué de commencer un atelier que de lâcher de terminer.
C'est pour ça que je travaille sur plusieurs années, parce que justement, une fois de plus, ces jeunes, au début, ils sont extrêmement sceptiques, parce qu'on n'a rien gratuitement en prison. On le paye souvent très cher, et quand ils voient qu'il y a quelqu'un d'assez fou pour venir avec un projet où finalement ils auront des photos et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de coup tordu derrière, ils adhèrent. Et la phase suivante, c'est qu'ils désirent me raconter leur histoire. Et cela, il faut être très solide. Je suis extrêmement solide. C'est là qu'il faut refuser d'écouter leur histoire et de donner l'appareil photo à ces jeunes comme, je dirais, exutoire, comme moyen d'exprimer ce qu'ils ont envie de me dire. Donc il y a un affect très fort entre nous, mais je n'accepte leur histoire qu'à travers l'appareil photo. Donc c'est là où je les canalise. Et c'est pour ça aussi que je ne veux pas faire mon petit atelier au Mont-Marie. Je reviens, je dis voilà, toujours donner des dates fixes, je reviens dans tant de temps. Déjà, j'amènerai des grands tirages. Les petits tirages, c'est au jour le jour, le tirage de lecture. Après, je reviendrai, on va mettre sous cadre. Après, je reviendrai, on va faire l'expo. Parfois, il faut un temps très court, parce que dans un centre de jeunes détenus, ça peut. Tout simplement, je demande combien de temps ils vont rester. Donc, je prends cela en compte. Mais ce qui est très important, c'est que ça se fasse progressivement. C'est très très dur de se quitter. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas les quitter en ayant emporté une partie de leur histoire, c'est-à-dire une partie de nous. Je veux, quand je pars, leur avoir donné quelque chose et qu'ils ne se sentent pas amoindris. Comme disait Montaigne, je suis moulin aux autres sans monter à moi-même.
Alors, merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a parmi vous des réflexions, des questions?
Est-ce que je peux juste terminer?
Oui, attendez.
Je voudrais juste souligner l'effet thérapeutique par une. Je n'ai pas vraiment parlé d'expérience individuelle, mais c'était assez, c'est en Lettonie. Il y avait un jeune qui a magnifiquement travaillé, qui a été extrêmement présent, il a adoré, ça a structuré la photographie. Et lorsque je suis revenu pour l'exposition, qui a eu lieu et dans la prison, et ensuite au Musée national, où il y avait une grande exposition d'Henri Cartier-Bresson, et je lui ai demandé s'il acceptait que dans l'entrée, il y ait les photos des jeunes. Bien sûr, il a accepté. Ce jeune-là, il était déjà dehors, et il a voulu venir avec sa fiancée au vernissage, mais il ne pouvait pas venir à pied ou en bus quand on est une fiancée. Et du coup, il a volé une voiture, il s'est fait choper, il est allé à la prison.
Bon, je ne sais pas quelle est la morale de l'histoire, peut-être que quelqu'un dans la salle vous l'a donné.
C'est thérapeutique.
Bon, et bien écoutez, je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Je remercie Didier d'être là, toujours présent. Ah, il y a une question. Alors, ça va.
C'est trop tard.
Bonjour, j'ai une question. C'est que ces gens qui sont enfermés en prison, donc on leur portrait exposé parfois à l'extérieur. Quelle est leur, leur règle par rapport à ça, le fait qu'eux soient enfermés, qu'ils leur apprennent à l'extérieur.
Tu veux répondre ?
Oui, j'avais travaillé en prison. Mais ça doit dépendre. De toute façon, il n'y avait pas. Enfin, moi, j'ai l'expérience dans des contextes beaucoup moins compliqués. C'est déjà compliqué. C'est que. On peut avoir un effet. Ça peut tout le temps se retourner, en fait, hein, quand on travaille avec des personnes fragiles. Donc la personne peut être. Super. Et puis ça peut changer aussi. Il peut être super content la première fois qu'il va voir sa photo, par exemple, au vernissage à l'extérieur. Et puis la semaine d'après, ne pas supporter que ce soit à l'extérieur pour toutes sortes de raisons.
Mais, très réglementé.
Oui, dans les faits, c'est très réglementé. Hein.
Donc, personnellement, ce ne sont que des contraintes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que des paramètres qui nous empêchent de faire. Et l'un de ces paramètres, bien sûr, est ne pas montrer de portrait reconnaissable. Mais il y a tout le temps des gens sur les photos. Jamais je n'ai mis de bas ou de flouté. Et c'est là où on joue sur le contre-jour. Donc, ce qui est très important, ce ne sont pas leurs portraits qui sont montrés, ce sont leurs créations, ce sont leurs photos. Et c'est là où ils sont fiers. Ce n'est pas. Ce qui est terrible, c'est quand vous avez un journal qui fait un article sur un tel a tué tant de personnes, et puis il a fait ça, et puis après il a tué des policiers, puis après en voiture il a fait du 240 à l'heure. Là, ils ont en grand l'article dans la cellule, et ça, c'est un grade très élevé. Les plus respectés en prison, c'est ceux qui tuent des policiers. Et si on joue, par exemple, j'étais horripilé par une photographe espagnole qui a photographié les détenus avec leurs tatouages posant comme des modèles et qui a montré ça toute fière, exactement comme des modèles de mode. Je conchis ce genre d'approche parce que c'est absolument, mais vraiment absolument dégradant, et c'est les confirmer dans leur acte hors la loi. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec ces jeunes parce que je les considère d'égal à égal. Je ne leur donne pas la possibilité d'être des petits délinquants, des petits sauvageons. Je ne leur donne pas la possibilité de s'affirmer par l'acte qu'ils ont commis. Et pour moi, là où c'est difficile et où c'est extrêmement sensible, je leur fais sentir que faire œuvre de création, c'est aussi quelque chose de très très valorisant. Et là, ça marche.
Où peut-on voir vos travaux ?
Vous pouvez les acheter. Je vous en prie.
Dans une galerie ?
Je ne veux pas montrer ce travail en galerie. Agnès B., après qu'il y ait une exposition à la Maison européenne de la photo, les jeunes en 98, les jeunes sont venus. On a fait la JAP, la juge d'application des peines, a pris un risque énorme. Elle a fait venir les jeunes à l'exposition. On a fait un deal. L'expo à la MEP, c'est 16h, 21h. Ils me disent entre 18 et 20, on disparaît. Il y a ceux qui sont allés au kebab, il y a ceux qui sont allés au punt, il y a ceux qui sont allés au McDo. À 20h, ils étaient de retour, ils sont tous retournés en prison. Et Agnès B. a trouvé que c'était super cool d'avoir des jeunes dans une expo. Et elle m'a demandé de refaire la même chose et j'ai refusé. Vous ne verrez pas de photo de moi dans la collection d'Agnès B.
Non, mais justement, je vous demandais où, en
fait,
de
façon.
Je sais pas.
Alors, il y a un photopoche. Il y a un photopoche.
Entre parenthèses, ça s'appelle. Et voilà. Photopoche. J'ai un site aussi.
Il y a un site.
Subban.com. Gislain, il faudra qu'on travaille sur le site. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas.
Mais, est-ce que ce sont des photos de vous ou des détenus?
Dans le DVD qui est épuisé, comme moi, il y a des photos de moi et des photos des jeunes. Ça, c'est très très bien. Le DVD est magnifique. C'est dommage que vous n'ayez pas acheté. Non, même pas. On les vole. C'est quelque chose d'incroyable. Et la seule chose que j'ai faite de bien en prison, c'est une émission pour France Culture où j'étais producteur. Ça s'appelle La photo, c'est de la bombe. Et là, les jeunes parlent. Et finalement, la photo. C'est difficile, c'est bien d'en faire. Mais là où je pense que j'ai été le plus juste, c'est quand j'ai fait, c'est parler ces jeunes pendant une heure. L'émission La photo, c'est la bombe. Podcast France Culture, c'est là où je me connais.
Ça, on peut encore la podcaster ?
Oui, c'est
oui. Bien. Très bien.
La photo, c'est la bombe.
Très bien.
Le livre, c'est entre parenthèses.
Entre parenthèses, parce qu'ils sont entre parenthèses.
Bon, bah, les conférenciers de la bombe, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Non, pardon, à l'automne. Je parle en année scolaire, mais ce n'est pas ça. Hein. Donc, on se retrouve en septembre maintenant pour un nouveau programme de conférences. Merci à tous.